Bonjour Pascal Obispo.
Bonjour.
Vous me permettez de vous appeler Pascal d'ailleurs et non pas Johnny, hein, appelle-moi Johnny, référence à ce single, n'est-ce pas ? On commence bien. Que vous avez sorti le 15 juin dernier à l'occasion de l'anniversaire de Johnny Hallyday qui aurait eu ce jour-là 82 ans. Alors est-ce que appelle-moi Johnny, c'est vraiment l'une des premières phrases qu'il vous a dites lorsque vous êtes rencontrés ?
C'est la première phrase qu'il m'a dit parce qu'il a fallu que je sache comment l'appeler. Donc je lui ai posé cette question. Dois-je vous appeler vous vous voyez, vous tutoyez, Monsieur Hallyday, Johnny Hallyday, Jean-Philippe. Voilà, donc il m'a répondu, appelle-moi Johnny.
Et cette première rencontre, c'était quand ? C'était en 97, quand vous aviez réalisé l'album, Ce que je sais ?
Oui, c'était sur son bateau qui était accosté sous la statue de la Liberté. Et donc nous avons passé un moment à écouter les titres qu'il avait déjà validés. J'en ai rajouté deux de plus, Allumer le feu et Ce que je sais, mais tout était prêt.
Des bons ajouts alors.
Ouais, ouais. Bah, c'est lui qui m'avait demandé en partant, crée-moi une chanson pour ouvrir le Stade de France.
Voilà. D'accord, donc avec Zazie et vous effectivement.
Ouais.
Qui était votre Johnny justement, ce Johnny que vous connaissiez, vous Pascal ?
Bah, c'était une personne assez turbulente, attachante, drôle, très humain. Très seul, en attente de vérité, mais vivant souvent autour de lui avec beaucoup de mensonges. Une espèce de double facette d'une vie de star, comme on dit, doublée d'une vie d'extrême solitude.
C'est assez étonnant ça, on n'imagine pas Johnny seul.
Alors non, il n'était pas vraiment seul. Il était seul parmi les gens en fait. Les seules personnes sincères avec lui, c'était ses enfants. Alors les deux petites, elles étaient vraiment toutes petites, mais... Il avait un amour pour ses petites et puis surtout David et Laura. Quoi. C'était, je pense qu'il était à l'aise comme un poisson dans l'eau quand il était sur scène parce qu'il n'avait pas tous ses problèmes. Il lâchait prise quand il était sur scène et c'est pour ça qu'il était le meilleur. La scène était une forme de libération où il s'abandonnait totalement à son public.
Le clip de cette chanson « Appelle-moi Johnny » a été tourné en Camargue, réalisé par Nicolas Boualami. On y voit justement Laura Smet, la fille de Johnny. Elle a dit quelque chose de très touchant sur vous. Elle dit qu'elle vous voyait comme un repère.
Oui, parce que quand elle vient chez moi au Café Ray, elle a l'impression qu'elle est avec son père. Quoi. C'est parce qu'il y a plein d'instruments, il y a des livres, il y a des références à la musique que j'écoute, qu'il écoutait aussi. Et puis j'ai travaillé avec lui, et puis j'ai des souvenirs avec lui. Donc on peut se raconter des anecdotes, c'est un peu comme, on va dire, quelqu'un de ma famille. Il y a quelque chose de très fraternel entre nous. Moi je sortais Laura en boîte de nuit parce que j'étais un peu son, comment on appelle ça ?
Le chaperon.
Le chaperon, voilà, c'est ça. J'étais un peu chaperon et je la surveillais. Johnny me l'a confié parce qu'il n'allait pas sortir avec elle. Il me dit, ben, tu peux pas amener, elle a envie d'aller en boîte de nuit. Donc je la ramenais après, bon, il me faisait confiance. C'est d'ailleurs pour ça que la chanson que j'ai faite est une chanson de cette époque.
Musicalement
c'est tout ce qu'il aimait.
Oui, et les paroles, ça raconte justement cette rencontre dont vous me parliez et votre relation.
Exactement.
D'accord. Donc elle fait partie, cette chanson, d'un album, Héritage, qui sortira dans quelques mois, on ne sait pas trop quand.
Oui, parce qu'en fait, j'ai profond respect pour les gens avec qui je travaille. J'ai du mal à décider quand une chose est finie. On a envie de rencontrer... d'autres voix, d'autres mélodistes, d'autres compositeurs. Donc, ce disque s'agrandit, mais son dénominateur commun, c'est l'héritage. C'est-à-dire que c'est la transmission. J'ai été un adepte de la transmission. C'est-à-dire que je l'ai reçue et j'ai essayé de la transmettre à mon tour, de donner ce que j'avais appris.
Mais justement, quel héritage vous aimeriez laisser avec cet album, mais aussi avec tous vos
disques. L'héritage que je voudrais laisser, c'est l'héritage que j'ai reçu. Je suis qu'un passeur de cet héritage. Puis c'est difficile de dire qu'est-ce qu'on va laisser ou transmettre. Vous savez bien que c'est quand on n'est plus là que tout d'un coup, on s'aperçoit de ce qu'on peut laisser. Moi, je sais quand je ne serai plus là, j'imagine bien, avec toutes les chansons que j'ai faites, mon application, les comédies musicales et tout le bordel que j'ai foutu dans ce métier. Je sais bien que voilà, il se passera des choses parce qu'il y a une œuvre qui est assez grande. Elle a touché ou moins touché des gens, mais il n'y a pas de bonnes ou mauvaises chansons. Il n'y a que des chansons qu'on rencontre à un moment de notre vie qui deviennent importantes ou pas. Voilà, c'est tout. Bon, quelques chansons qui sont devenues, malgré moi, des chansons cultes, comme L'envie d'aimer ou Allumer le feu, et ça vous décidez pas. Hein. Par contre, j'ai presque eu le sentiment, en écrivant d'autres chansons, qu'elles étaient meilleures. Et vous les connaissez pas ? Comme quoi, La musique, c'est juste une question de correspondance, de moment, voilà. Et puis la magie et la chance. Mais se dire, bon, peut-être qu'on a, on a contribué à donner du plaisir aux gens, ça, c'est vraiment une fierté, en fait. Parce que j'ai vécu la même chose. Il y a des artistes qui m'ont donné du bonheur, qui m'ont fait pleurer. Et ça, c'est magnifique.
Pascal Obispo, on le sait, Johnny Hallyday adorait les belles voitures, plus encore les motos d'ailleurs. Vous aussi, me semble-t-il, vous appréciez les belles carrosseries.
J'ai eu.
Allemande en particulier. Vous avez toujours votre Porsche 911 Carrera 4S.
Non, j'ai plus. J'ai eu une Porscherie à un moment donné, effectivement. J'en ai gardé qu'une, c'est vrai que j'ai eu un peu la folie de la collection. Et puis tout ça m'a passé avec le temps, qui m'a fait faire d'autres choix de vie. Comme la peinture ou acheter, je sais pas, une serre pour cultiver des fruits et des légumes.
C'est autre chose, effectivement. Est-ce que vous avez conservé la conduite sportive qu'on imagine aller avec les Porsche, par exemple ?
Non, je roule plus calmement maintenant. J'adore les voitures de course, mais c'est vrai que c'est trop dangereux. C'est trop dangereux parce qu'il faut conduire avec les autres. Il y en a vraiment qui ne savent pas conduire. C'est une catastrophe. Ils sont seuls, ils ont l'impression qu'ils... Enfin, bref, c'est...
Mais si, quelle est l'erreur de conduite que
la
vous ne pardonnez pas ?
La seule erreur de conduite, c'est de ne pas conduire avec les autres. De ne pas regarder au loin et derrière et sur le côté. Ce que je ne pardonne pas, c'est les gens qui déboîtent sans mettre le clignotant ou qui déboîtent sans regarder, quoi. Regardez derrière. On est tous ensemble. Moi, quand je conduis, il y a une circonférence très, 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 très large. Hein.
Est-ce que ce qui vous est arrivé le 26 février 2008, le jour où vous aviez sauvé la vie d'un jeune homme, Nicolas Lacambre, percuté par un chauffard sur cette route que vous connaissez si bien entre le Cap-Ferret et Bordeaux, il avait été percuté par un chauffard et il s'était retrouvé sur le bord de la route.
Non, au milieu.
Au milieu de la route. Bon, grâce à vous, il l'a survécu. Est-ce que ça a changé votre vie, le fait de voir comme ça cet accident de si près et d'avoir agi en plus ?
C'est difficile de ramasser un bras qui s'est détaché d'un corps. Bon, là, il faut avoir une forme d'inconscience, en fait, je pense. Dans ces moments-là, ce n'est pas du courage, c'est de l'inconscience. C'est vous ramasser un bras, vous ramasser un type, vous déblayez, il fait nuit. Moi, je m'éclairais avec mes phares. Je ne savais même pas si le gars allait... Je le voyais, il était souffrant, mais je... Pas s'il allait vivre ou pas, mais je l'ai tiré vers le bord de la route, j'ai appelé les pompiers, enfin, le bras c'était dur quoi, c'était dur. Et puis il avait la cheville, parce qu'il a perdu aussi sa jambe un peu, donc tout était sectionné, ça pendait un peu comme ça. Et... Donc c'est des moments où, voilà, vous y allez, vous savez pas ce que vous faites, et vous essayez de le protéger d'abord. Et puis moi je pensais à ça, sinon, donc j'ai déblayé toute la route, j'ai enlevé la mobilette, j'ai enlevé les trucs qui traînaient, les bouts de verre, à toute vitesse. Et j'ai vu qu'il y avait l'autre voiture qu'il avait percutée, qui était dans le fossé un petit peu plus loin, mais le mec il sortait pas, il était parti quoi. Et il a flippé, parce qu'il l'a défoncé en fait.
Mais alors est-ce qu'une telle expérience change le conducteur qu'on est ?
Ah oui, totalement. Ça m'a changé totalement.
Dans quel sens ?
Bah, dans le sens de conduire avec les autres, de faire gaffe, parce qu'il y a toujours des gens qui ne vont pas allumer les phares de vélo. Il y en a toujours un qui ne va pas mettre son clignotant. Donc moi, je ne serre pas trop les voitures, ça me fait peur, surtout quand ce n'est pas moi qui conduis. Je dis, arrête de serrer, s'il freine, on se le prend. Donc, mais au moins, une distance de deux voitures, ça me fait chier, les gens qui collent comme ça, comme s'ils étaient en Formule 1. J'ai pu le faire à un moment donné, mais c'est parce que j'avais des voitures de course. Et puis bon, j'étais vif, mais... Je le fais plus maintenant, quoi. C'est inconscient. Mais ceux qui déboîtent sans mettre de clignotant, sérieusement. Mais on les voit, de toute façon. Donc, les gens roulent seuls. Donc, je conseille à tous les automobilistes débutants, apprenez à rouler avec les autres.
En tout cas, en ce moment, beaucoup de nos auditeurs voyagent en cette période de vacances. Est-ce que vous, Pascal, vous avez des souvenirs de départ en vacances, petit, avec vos parents ?
Oui, pour aller au Cap-Ferret avec mon grand-père dans la deux chevaux, avec le chien, le chat et l'oiseau. Le chat qui regardait l'oiseau dans la cage et qui voulait le bouffer. Mon cousin, mon grand-père, ma grand-mère, on allait en deux chevaux, on partait, ça durait 2 heures, et on allait de Bordeaux à Petit Piquet, qui est une commune du bassin d'Arcachon. C'était le grand voyage, quoi. Quand on est petit, c'est toujours des grands voyages. Important, tous les étés, on attend ça. Ah, quand est-ce qu'on part ? Il fallait attendre la fin de l'école, mais je me souviens de ça précisément, ouais.
Est-ce que la voiture, pour vous, c'est un endroit, je reviens à la musique, où vous écoutez vos nouveaux morceaux et une sorte de lieu de test pour vous ?
Grave ! C'est pour ça que chaque fois, dans toutes mes voitures, j'ai une super sono. Parce que quand je repars du studio, là, par exemple, là, ce soir, je vais écouter les mix qu'a fait Yuri. Et après, je vais noter ça. Et le lendemain matin, en revenant, je réécoute et je sais, en arrivant dans le studio, il faut faire ça, 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 ça.
Donc c'est un bureau en fait, la voiture.
Ouais, c'est un peu un bureau si vous voulez. En tout cas, c'est un vrai test d'écoute. Donc c'est pour ça que je finis les réglages souvent dans la voiture, c'est marrant. Hein. Mais la sono est top quand même, c'est pas une petite radio. Ouais.
Donc je reviens sur cet album Héritage que vous préparez. Vous dites que ce sera votre dernier album physique, pour quelle raison?
Je pense, ouais, ça sera la dernière, ouais. Bah, parce qu'on vend plus de disques physiques.
Bah, des vinyles on vend maintenant.
C'est juste technique. Oui, mais les vinyles, vous en fabriquez pas beaucoup. Les vinyles ont passé les ventes de CD, mais sur des quantités extrêmement faibles. Quand vous vendez beaucoup de vinyles, je sais pas, vous en vendez 6 000, 8 000, un truc comme ça. Avant, quand on vendait des disques dans les années 90, on vendait 100 000 par semaine. C'était dingue. Et maintenant, quand on fait ça à la fin de l'exploitation...
On est content. Et d'autres projets, évidemment, de chansons, de façon en permanence, dans votre tête?
Non.
De spectacle musical aussi, ou pas?
J'ai une vague idée, mais je veux me concentrer sur la fin de l'enregistrement de la deuxième moitié donc, de cet album, avec tous les artistes qui vont nous rejoindre.
Et on peut avoir des noms?
Ouais,
ou...
c'est compliqué. C'est compliqué. Et sinon, la peinture, je vais exposer le 19 septembre au Vallée Tudeau de Saint-Rémy-de-Provence, dans la clinique où était Van Gogh, à la fin de sa vie. Donc j'ai une demande pour faire un travail sur les thérapies en peinture pour les malades qui sont atteints de troubles graves psychologiques, symboliquement pour montrer que l'art-thérapie peut être intéressante dans le...
Dans la santé mentale.
Ouais, ouais, ça peut aider. Et je vais aussi avoir un vernissage à la rentrée en octobre dans une galerie, rue de Seine, galerie Ange Bassot, qui travaille déjà avec des artistes comme Banksy, Invader ou Laura, ou des gens comme ça. Voilà. C'est tout nouveau pour moi et je suis hyper heureux parce que c'est quand même assez difficile dans ce pays de pouvoir avoir...
plusieurs cordes à son arc.
Ouais, ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué, c'est tellement dommage. L'art est multiple, enfin... on peut faire plein de choses, quoi. Bon, moi, il se trouve que je fais de la musique, mais en même temps, j'ai jamais appris à faire de la musique, donc j'ai jamais appris non plus à dessiner. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, l'émotion suscitée, la correspondance qu'on essaie de tisser avec quelqu'un qui va regarder ou qui va écouter, ça n'a rien à voir avec la technique. J'adore la peinture. C'est un mode d'expression très intéressant pour ma thérapie personnelle.
Mais justement, est-ce que ça a pu vous aider à certains moments, ah, cette art-thérapie?
Ah, bah oui, ça m'a aidé vraiment nécessairement. Bah, la musique n'est pas suffisante à un moment, donc faut aller travailler d'autres choses. Moi, je suis content d'avoir eu la musique et la peinture. Voilà.
Est-ce que les chansons de ce nouvel album, vous allez le présenter sur scène aussi?
Non, enfin, je crois pas parce que j'ai beaucoup d'enregistrements et en même temps, je finis l'anthologie de la chanson française qui me prend beaucoup de temps. Je réenregistre quand même 1300 titres, donc il y a 56 albums, donc là, on en est à la moitié. Ça va me prendre encore 2-3 ans, donc je fais ça pour moi, pour mon plaisir, pour les fans aussi. Mais bon, si un jour je refais des concerts après cette tournée, peut-être qu'il y aura des chansons effectivement qui sont jouées. Quoi.
Tout ça disponible sur All Access, hein, toujours votre plateforme.
Ah oui, oui, c'est Obispo All Access, mais l'album Héritage, quand il sortira, il sera dans les magasins.
Merci beaucoup Pascal Obispo.
Merci à vous.
Appelle-moi Johnny, le single est donc disponible avant la sortie d'Héritage, l'album... à l'automne peut-être, ou dans quelques mois.
Ou dans 2 automnes.
On verra. Merci beaucoup Pascal, et puis bel été.
Merci à vous, bonnes vacances à tous. Protégez-vous, protégez vos anciens, protégez vos enfants, et soyez prudents sur la route, et surtout, roulez avec les autres, et pas tout seul.